Cet épisode sera également publié sous forme vidéo sur la chaîne YouTube du Conseil scolaire Viamonde, Aide Pédago. Cherchez toute la classe ou Aide Pédago et bon visionnement! Nous sommes trois professionnels de l'éducation dans le sud de l'Ontario.
Mylène Brassard,
Vicky Fauteux
et Jennifer Davies. Puisque nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe.
Quoi?
OK. En effet, nous avons
toute la classe.
Nous allons vous proposer des épisodes sur des thèmes ponctuels en éducation, tels que la planification,
l'évaluation,
l'intégration de la technologie,
la persévérance
et bien plus encore.
Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de la discussion sur notre page Facebook.
Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, 12e épisode de toute la classe.
Wow!
Deux de plus que la dizaine. Alors, on a décidé d'aller en grand avec un sujet qui est chaud, et ça, qui est chaud à tout moment.
À tout moment de l'année, c'est ça.
On parle de motivation. Alors, si je vous pose la question, comment est-ce qu'on assure la motivation de nos élèves dans la salle de classe?
Question à 1 million, 2 millions de dollars?
Avec beaucoup de réponses.
Avec beaucoup de réponses
possibles. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent dans la motivation de l'élève. Je pense que le plus important, c'est la relation éducative, la relation affective entre l'enseignant et l'élève.
Mm-hmm. Ah, tout à fait. Puis je pense qu'il y a la relation éducative, mais il y a aussi de l'élève à l'adulte, mais de l'élève à l'élève, de s'assurer que l'environnement, oui, c'est un environnement qui est propice à l'apprentissage.
Oui. Ça me rappelle de notre épisode dans lequel on avait parlé beaucoup du profil de classe. C'est au début de l'année, on s'assoit, on fait vraiment beaucoup de travail avec les élèves pour vraiment établir un bon environnement, une bonne dynamique de classe. Ça me rappelle beaucoup de cet épisode, mm-hmm, dans lequel on avait beaucoup parlé de ça.
C'est ça. Puis si on ne connaît pas bien les élèves, on n'est pas capable d'utiliser leurs intérêts pour aller chercher de l'engagement.
Oui.
Oui, je suis d'accord que l'intérêt est là, c'est super important parce que s'il n'y a pas de lien affectif avec l'apprentissage, l'enfant décroche. Mm-hmm. Alors, si on les connaît bien, on va chercher ce pourquoi ils ont des passions, ce sur quoi ils s'intéressent, etc. Et là, on les sert ça dans, mm-hmm, notre apprentissage.
Puis souvent, je vois quand on nous demande d'aller dans des salles de classe où la gestion de classe n'est pas bonne parce qu'il y a certains élèves qui ne sont pas engagés, qui ont décroché puis qui font juste niaiser. Souvent, je trouve que le problème, c'est que l'enfant se sent pas comme s'il est vu par l'enseignant, comme, mm-hmm, si l'enseignant le connaît comme individu. Et souvent, quand je demande à l'enseignant, ce gars, c'est pas sexiste, souvent, c'est un petit garçon. Mais cet élève-là, c'est qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur de l'école.
Oui.
Et si l'enseignant ne le sait pas, bien, ça, c'est un premier indice qu'il y a cette relation qui n'a pas encore, oui, été bâtie.
Oui. Et je trouve que je trouve que aussi, souvent, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extrêmement formel. C'est le fait de juste dire un bonjour, de parler un petit peu des intérêts des élèves à l'extérieur d'un contexte d'une salle de classe, ça rapporte tellement plus, mm-hmm, que de dire, oui, tantôt on va parler aussi de comment le faire de façon un peu plus formelle, mais ça n'a pas besoin d'être toujours intégré à ton enseignement. Ça n'a pas besoin d'être toujours intégré à tes tâches.
Mm-hmm.
Vraiment, juste un bonjour, juste de parler, si par exemple, si c'est un match de hockey, parlons de ça. Si c'est les Barbies, parlons de ça. Mm-hmm. Alors, ouais, ça peut être vraiment hors contexte scolaire.
Il y avait un livre de Michael Fullan, il y a quelques années, où lui, il avait parlé de l'idée d'inviter un élève avec qui tu n'as pas encore cette relation.
Mm-hmm.
Juste dire, tu sais, on a une récré de 15 minutes, j'aurais besoin d'aide avec le babillard.
Ouais.
Est-ce que tu pourrais m'aider avec, parce que toi, tu es grand. Et puis, juste de parler avec l'élève, jaser de façon informelle avec l'élève pendant que vous faites quelque chose d'autre qui n'est pas vraiment académique, qui n'est, mm-hmm, pas relié à la salle de classe.
Absolument.
J'ai trouvé ça une super bonne idée.
Oui, puis c'est l'idée d'apprendre à connaître les élèves dans leur entité, dans leur entièreté, de, mm-hmm, voir que oui, il y a l'aspect de j'ai un tel nombre en GB+, ou je suis tellement bon, mais autre que ça, mm-hmm, qui je suis comme personne, mais aussi de laisser les élèves apprendre à nous connaître.
Absolument.
À ce niveau-là.
Oui, oui, oui.
Puis que
oui.
De nous mettre dans une position de vulnérable.
Oui.
Dis-le pour moi.
Vulnérabilité.
Et c'est exactement ce que je voulais dire. Et de, que nous aussi, en tant que personne, on est fatigué des fois, on a mal à la tête des fois, mais qu'on est humain au même titre mm-hmm. qu'apprendre à connaître l'enfant en tant qu'humain.
Absolument. Une fois, quand je suis allée dans une salle de classe où justement le problème c'était gestion de classe, j'ai posé la question aux élèves. Je m'assois à côté de Jackson, puis je dis, parle-moi de Jackson. Puis c'est ce qui est le plus important à l'élève qui va sortir tout de suite. Mm-hmm. C'est aussi simple que ça.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, oh, je joue au hockey, je suis le gardien de but, mon père m'a amené, tu sais, je sais pas, manger des spaghettis hier, j'adore le... Anyway, juste des petits détails de sa vie à l'extérieur de l'école.
Ouais.
Encore une autre fois, ça c'est encore une autre fois une question ouverte. Fait que la question ouverte, mm-hmm. c'est pas seulement dans le contexte mm-hmm. formel.
Oui.
Comme,
oui.
Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Pendant le cours de mathématiques, ce même élève ne participait pas. Alors, je lui ai demandé, tu m'avais dit que tu joues au hockey, puis peut-être qu'il n'était pas gardien parce qu'autrement, cette prochaine question ne fonctionne pas, mais je lui ai demandé, c'est quoi la grandeur de la patinoire, d'après toi, à peu mm-hmm. près? Puis il a dit, je ne sais pas, 25 mètres. Alors, j'ai dit, pendant un match de hockey, combien de fois est-ce que tu traverses la patinoire? À peu près. Alors, il m'a donné un chiffre, puis je lui ai demandé, oh, je me demande, c'est quoi la distance que tu parcours pendant un match? Mm. Alors, lui, il s'est assis et il a fait le calcul qui était similaire à la question qui avait été posée, dans laquelle il n'avait aucun intérêt. Alors, parfois, si on va chercher les intérêts de l'élève le plus réticent dans la salle de classe, puis on l'implique dans la question, ça le motive et les autres qui allaient être motivés de toute façon.
Oui, mais ça, c'est un bon tremplin, parce que là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que dans l'idée informelle de la relation avec l'élève, on peut aller créer des moments opportuns d'apprentissage. Puis la tâche qui avait été proposée par l'adulte, mm-hmm. qui était peut-être moins engageante ou plus... Là, c'est devenu une tâche authentique parce qu'il y avait un lien direct avec le vécu avec, de l'élève.
Oui, oui.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que vous seriez d'accord avec moi de dire que la tâche authentique est une façon d'amener la motivation de l'élève dans la...
Je dirais que la tâche authentique n'a pas vraiment besoin d'être quelque chose qui va utiliser ailleurs ou qui va avoir un impact sur le monde à l'extérieur. Pour cet élève-là, puisqu'il y a un lien avec son vécu, c'est une tâche authentique. Mm-hmm. Il n'a pas besoin, ça n'a pas besoin toujours d'être de « on va écrire une lettre au maire de notre ville pour lui convaincre de ta-ta-ta ». Parfois, ça peut être aussi simple que de demander à l'élève combien de mètres est-ce que tu patines mm-hmm. quand tu joues au hockey.
Absolument, parce que l'idée de maire souvent, ou de « on va aller au siège social de », ben ça devient tellement gros puis inatteignable comme but qu'on se désengage, nous, comme adultes. Alors, pour l'enfant, c'est encore pire. Là.
Il se détache très facilement.
Oui.
Dès que la tâche est trop explosive, ils ne peuvent plus vraiment s'identifier mm-hmm. dans ce processus-là. Mm-hmm. Je comprends que, comme adulte, tout ce qu'on fait, ça prend... C'est quand même de longue envergure, mais eux autres, ils ne peuvent pas mm-hmm. s'identifier dans ces étapes-là.
Ouais. Et je me rappelle une fois, j'avais été dans une salle de classe en première année où les élèves étudiaient les solides géométriques. Et l'enseignant leur avait demandé de compter les arêtes, de compter les sommets, compter les faces et de remplir fiche après fiche après fiche. Puis qu'est-ce qui roule, qu'est-ce qui glisse, quel solide est-ce qu'on peut superposer. Puis il n'y avait pas de sens dans les questions. Il n'y avait pas de contexte. Mm-hmm. Et je me rappelle quand mon fils était en deuxième année, toutes les fiches, où est-ce que ça roule ou est-ce que ça glisse. Et on a rempli plein, plein, plein de fiches de travail. Mais quand j'ai pensé à vraiment, c'est quoi l'essentiel? C'est quoi la grande question? Pourquoi est-ce que les élèves doivent savoir qu'est-ce qui roule et qu'est-ce qui glisse? Bien, c'est pour savoir quel solide est propice à quel rôle ou quelle action ou quelle... Mm-hmm. Oui. Alors, tu sais, si on demande dans une cage de hamster, pourquoi est-ce que le bol est un cylindre? Pourquoi est-ce que la cage est un prisme à base rectangulaire? Pourquoi est-ce que la roue est un cylindre? Pourquoi est-ce que la balle d'exercice du hamster est une sphère? Mm-hmm. Et puis, qu'est-ce qui changerait si on changeait ces prismes-là? Mm-hmm. Alors, si on mettait le hamster dans une cage en forme de pyramide.
Oui.
Tu sais, comme...
Pauvre hamster.
Oui.
On le fait courir dans un cube.
Oui, exactement. Ça ferait mal.
Pouf. Pouf. Pouf.
Oui. Pouf. Commotion cérébrale du petit hamster.
Oh, mais drôle, dans la c'est pas drôle.
Mais dans la vraie vie, pourquoi est-ce que dans les sports, on utilise une sphère? Mm-hmm. Comment est-ce que le soccer serait différent si c'était un cube?
Absolument. Alors, à ce moment-là...
Pourquoi on l'habite dans nos habitats? Pourquoi nos maisons, c'est des...
Oui, si ça sort de classe, c'était un cylindre.
Oui, oui. Puis à ce moment-là, t'arrives vraiment... ou même connaissance, t'arrives à vérifier la même connaissance, mais en faisant un lien avec leur vécu, avec ce qu'eux, ils peuvent observer, ça fait toute une différence. Comme au lieu de juste dire vrai ou faux. Hein?
Mais là, parce que
c'est solide à 5 arrêts. Vrai ou faux? Vrai, faux.
Mais je te dirais que, tu sais, quand on dit qu'ils arrivent aux mêmes connaissances, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que l'idée, après avoir cette questionnée sur si notre salle de classe est un cylindre, les apprentissages vont être beaucoup plus
riches.
Propice à rester à long terme que si c'était je coche, oui, non, c'est ça. Non,
mais
non.
On avait parlé aussi dans une autre conversation du fait que parfois le curriculum, c'est pas clair pourquoi est-ce que les élèves doivent savoir connaître les propriétés d'un solide. Alors, il faut vraiment penser nous-mêmes, qu'est-ce que ça apporte à l'élève de comprendre qu'une sphère ou un cylindre peut rouler, mais un cube ne le fait pas.
Oui.
Mais d'où, c'est ça. Puis l'idée de la tâche authentique, c'est de prendre, comme si on pense, je sais pas moi, au test standardisé, si on pense à répondre à la compréhension de lecture ou peu importe, il y a moyen de transformer avec, mais de garder la même intention, comme d'arriver à la grande idée, mais d'apporter la réalisation de la tâche pour que ça soit beaucoup plus en lien avec ce que l'élève connaît, avec ce que l'élève vit de tous les jours. Si on ajoute les émotions, on va les chercher davantage. Si on va chercher les images, on va les chercher davantage. Mm-hmm. Fait qu'on peut aller utiliser tous ces facteurs-là, tous ces éléments-là, pour que l'élève soit beaucoup plus impliqué. Donc, plus impliqué veut dire plus motivé.
Plus de motivation.
Est-ce que vous diriez qu'il y a un autre élément qui amène la motivation des élèves?
Oui.
Parce qu'on a parlé de la relation éducative, on a parlé des tâches authentiques. Quoi d'autre?
Le choix.
Ah! Ouh. Ben oui!
Ouais, non, ça c'est bon. Puis je te dirais qu'on le sous-estime, le choix.
Mm-hmm.
Ou on l'utilise. Souvent, on se dit, bon, on va avoir la paix, on va leur donner le choix, mais il y a beaucoup plus derrière
le choix. Oui. Et je peux comprendre pourquoi parfois c'est épeurant. Quand j'étais à Reading for the Love of It la semaine dernière, c'était vraiment bon. Mais il y avait...
C'est une conférence
en lecture. Oui, en anglais. Mais c'est évident que toutes les idées sont transférables.
Ah oui, absolument.
Puis un des conférenciers parlait du fait que lorsqu'on pose des questions fermées aux élèves suite à une lecture, on limite leurs pensées. Alors, on leur dit sur quoi se concentrer lorsqu'ils font la lecture.
Oh.
Alors, eux, ils posaient des questions. Puis, ils disaient, premièrement, que les élèves devraient avoir plus de choix dans leur lecture. Alors, pour eux, c'était 40 % de lecture autonome, 40 % de lecture en cercle de lecture.
Et puis,
20 % de texte commun dans toute la classe.
Oh!
Oui. Alors, c'est plus difficile à gérer parce que tu as des élèves qui lisent des affaires différentes. Il faut que tu saches comment évaluer. Mais on leur offre ce choix-là. Puis dans les book clubs, les clubs des cercles de lecture, c'est pareil. Ils ont au moins un choix, même si c'est plus limité. Et puis les questions qu'ils posaient, c'était des questions comme... en début de livre, quelles sont les questions que tu te poses? Parce que là, t'es en train d'essayer de construire du sens.
Mm-hmm.
OK? Après quelques chapitres, quels sont les grands thèmes qui commencent à émerger? Puis, qu'est-ce qui est surprenant? Qu'est-ce qui vaut la peine d'en parler dans ton livre? Alors, c'est vraiment ouvert à l'élève. Et puis, à chaque fois qu'il lit un certain nombre de chapitres, il doit faire une deux pages dans son cahier de lecture. Mais c'est libre à lui. de décider si c'est en graphique, si c'est en dessin, ah, s'il veut dessiner le chemin du personnage, s'il veut faire des comparaisons. C'était plus comme un scrapbook de la pensée de l'élève.
Mm-hmm.
Je pense que j'ai pris une tangente, mais...
Non, c'est parfait. En fait, non, je sais qu'on est en train de parler de choix.
De choix, oui.
Mais en même temps, là, ça me rappelle... En fait, je fais un petit recul en arrière en disant que les tâches authentiques, tu sais, je pense que... Il y avait quelque chose que je n'ai pas mentionné tantôt, c'est que je pense que les gens, lorsqu'on parle de tâches authentiques, on pense souvent à la numératie, mais en fait, ça peut être n'importe quel domaine aussi.
Okay. Oui.
Puis pour revenir à notre conversation de choix, je trouve que, tu sais, on dit souvent qu'est-ce qu'on peut différencier. En fait, qu'est-ce qu'on peut différencier, c'est qu'est-ce qu'eux autres, ils peuvent choisir aussi. Alors, donc, les tâches, l'évaluation, tu sais, l'emplacement physique. Mm-hmm. Fait que, tu sais, leur offrir un choix de où s'asseoir, de où s'installer. Tout ce qui est aménagement, ce sont des choix. Fait que moi, je suis en train de faire un parallèle entre qu'est-ce qu'on peut différencier, mais ce sont vraiment les choix.
Puis, je pense à une conversation que j'ai eue avec un enseignant d'anglais de 8e année, il y a quelques semaines, où j'avais raconté que mon fils avait lu Lord of the Flies dans son cours d'anglais en 10e, je crois. Puis il m'a dit, tu sais, maman, c'est vraiment triste qu'on nous propose de bons livres qui sont très intéressants à lire, mais par la suite, on les gâche en nous demandant de faire des tâches tellement répétitives ou de répondre à des questions de compréhension.
Qui sont pareilles.
Oui.
N'importe quel livre.
Et puis, je pense que pour ce livre-là, il avait la même fiche qu'il fallait refaire 10 fois. Alors, après avoir lu 1 ou 2 chapitres, il fallait remplir la même fiche qui posait les mêmes questions. Puis, tu sais, quel est le développement?
Mais c'est triste parce que, justement, tu sais, si ça n'avait pas été de ces tâches-là qui sont... tu sais, c'est taper sur le clou, là. Mm-hmm. C'est désagréable.
Oui. Retravailler.
Mais tu sais, si on pense à la dernière lecture que j'ai adorée, là...
Oui.
J'ai pas passé des heures
à remplir cette fiche-là.
C'était un livre que j'ai aimé, puis j'étais pas assise sur une chaise. C'est toi qui m'avais dit ça. Le dernier livre que t'as lu... comme t'étais où, c'était quoi. Mm-hmm. Ouais. J'étais pas assise sur une jardoie dans le assise carré avec le... Non, j'étais assise dans ma chaise confortable avec ma petite lampe. Puis je me suis arrêtée au moment où moi, je décidais de m'arrêter.
Ouais.
Parce que des fois, tu lis, puis il y a tellement de choses qui se passent que, OK, là, il faut que je prenne une minute, il faut que je le digère tout. Mais si j'avais la liberté que, quand c'est le temps de digérer puis de voir comment je me sens puis de faire un peu d'introspection, si j'ai le choix dans la façon dont je vais te le présenter...
Ouais.
Ma motivation. Puis là, c'est peut-être que ce chapitre se présente bien à une carte d'organisation d'idées. Mmh. Le prochain chapitre se démontre bien au niveau, parce que là, ils sont... Bon,
il y a des liens avec
là, je peux faire une ligne de tâches. Non,
c'est ça.
C'est vraiment différent de remplir cette même fiche 10 fois au cours de mon livre.
Ouais. Puis le conférencier à qui j'avais fait allusion il y a quelques minutes, c'était Kelly Gallagher, qui est extraordinaire. Et j'ai commandé son livre, ça s'appelle 180 Days, puis c'est lui et Penny Kittle qui ont écrit ce livre ensemble. C'est génial, je le recommande à tout le monde, même si je ne l'ai pas encore lu. Mais lui, il a aussi écrit un livre qui s'appelle Redecide. Redecide, comme tuer l'amour de la lecture. Alors, c'est ça qu'on veut éviter de faire.
Je trouve que je fais toujours un recul en arrière, je suis désolée, mais tu sais, tantôt, tu avais parlé des clubs de lecture, des book clubs, que nous autres, comme adultes, des fois, on fait partie.
Oui, par choix.
Premièrement, par choix. Puis, deuxièmement, pour revenir un petit peu à tes questions que tu avais mentionnées tantôt, c'était quand une rencontre de club de lecture que vous avez comme adultes, qu'on s'assoit puis on dit « Où se passe l'histoire? » Non. Quel est le personnage principal?
Quel est le lien de parenté entre tel et tel? Ouais.
Non, c'est toujours, voici qu'est-ce qui est arrivé dans le livre, qu'est-ce que tu en penses de ça? Comment est-ce que tu aurais pu changer ça? Mm-hmm. Est-ce que ça a confirmé qu'est-ce que toi tu pensais?
Ouais.
Alors, si on ne fait pas ça,
pas compris pourquoi, ou j'ai pas compris la fin, puis on parle de notre perte de compréhension.
On
aussi.
Discute. Alors, puis après ça, on fait des liens avec notre propre vie. Ah, oh, il y a eu un décès dans le livre. Est-ce que ça a eu en même temps, est-ce que ça t'a rappelé d'un moment que tu as perdu une membre de la famille? Tu sais, des choses comme ça, comme adulte, là. Fait que si on se donne, le droit et la chance et le choix de discuter des choses qui sont en profondeur, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas ce choix-là?
Exactement. Et c'est sûr que pour certains élèves, c'est pas naturel de parler d'un livre. Alors, c'est quelque chose, tu sais, on doit le modéliser, on doit en discuter, on doit leur montrer comment remarquer certaines choses qu'un auteur choisit de faire. Mais c'est en modélisant ces comportements de lecteur que les élèves vont apprendre à discuter des livres.
Mais c'est la même chose avec modéliser... la lecture en soi, c'est de faire l'enseignement explicite de la lecture ou l'enseignement explicite de la compréhension de la lecture. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire l'enseignement explicite de l'appréciation de la lecture?
Oh, absolument. Oh, j'aime ça. J'aime beaucoup ça.
Oui, et... et moi... Moi?
Oui.
Toi? Oui, moi! J'aimerais discuter de quelque chose que nous, on avait constaté il y a quelques années lorsqu'on se préparait pour la conférence Connect. Et
qui est une conférence en technologie de l'éducation.
Technopédagogie.
Éducation en général. Mais non. C'est vraiment techno,
Qui se passe à Niagara, généralement fin avril, début mai.
Oui,
excuse-moi.
Non, ça va. On avait commencé à utiliser les iPads en salle de classe, mais les applications iPad où c'est l'élève qui contient qui crée du contenu au lieu de consommer du contenu. Mais on avait trouvé que juste l'intégration des iPads, ça a rendu toutes les tâches immédiatement authentique.
Absolument.
Mais je te dirais que, et ça, c'est une conversation que toi et moi, on a souvent dans la planification de ce qu'on propose aux enseignants, mais quand, avec la technologie, au niveau du processus d'écriture, il y a une étape qui s'ajoute. Parce que quand on parle de processus d'écriture, on écrit, on corrige, on révise, on écrit ça au propre, on met ça sur la tablette et on y retouche plus. Tandis qu'avec la technologie, on a une portée vraiment différente. Alors là, j'ai fait mon texte, je le corrige, je le révise, mais là, plutôt que de le mettre sur la tablette, je le dépose en ligne et là, je laisse les gens réagir. Je diffuse mon texte.
C'est ça.
Et ça rend une tâche qui est standard. T'sais, écrire, ça reste une tâche complexe. Mais là, ce que ça fait, c'est que les autres peuvent réagir. Alors, mon engagement à la révision, mon engagement à la correction devient très, très, très différent parce que là, je sais que quelqu'un va le lire. Chose que quand c'est sur la tablette, je ne sais pas si quelqu'un va le lire.
Non, c'est ça. Et puis, je pense qu'à l'élémentaire, on est assez choyé parce que même si c'est juste les parents qui vont le voir, si c'est déposé dans un portfolio numérique comme CISA ou dans le EAV, ça crée une motivation que maman et papa vont le voir.
Oui, puis on dit juste maman et papa parce que pour nous, on se dit, ça pourrait être le premier ministre, blablabla. Mais pour maman et papa, pour un enfant de deuxième année, c'est ça leur monde. Maman et papa,
c'est le noyau, là. C'est vraiment le noyau.
Alors, de savoir que ce que je vais écrire va être lu par maman et papa, moi, j'ai envie parce que tout enfant veut être qu'on soit fier de lui. Comme il y a personne, il y a pas un enfant qui se lève un matin en disant moi aujourd'hui là.
Ça me voilà.
L'enfant est pas construit comme ça. Alors de savoir que maman et papa vont le lire et je veux qu'il soit fier de moi. Alors voici et là j'ai les critères de réussite, j'ai tout ce qu'il me faut pour être capable de faire la rédaction d'un texte de qualité. Puis là, je le diffuse. Puis là, maman et papa. Et là, si je suis chanceux, quand je rentre à la maison le soir, maman et papa vont me dire « Hey, j'ai lu ton texte. Parlons-en. »
Et je pense que j'ai déjà dit que pour les parents, il n'y a rien de plus intéressant que la journée de leur enfant. Alors là, tu gagnes, tu sais, avec l'élève, mais aussi avec la relation qu'on crée avec le foyer.
Absolument. Mais l'idée de la motivation, c'est super gros parce que souvent, on se dit « Ah, oh, les élèves sont pas engagés, là, les élèves sont pas engagés, ah, les élèves, ils veulent pas travailler. » Mais la question, c'est « OK, toi, en tant qu'adulte, qu'est-ce que t'as fait pour amener cet engagement-là? Et toi, comme adulte, es-tu motivé à venir travailler? »
Absolument.
Parce que les élèves, ils nous lisent. Alors, les matins que ça me tente pas, les enfants, ils voient tout.
Ils voient, puis je trouve que pour les enfants, peu importe l'âge, honnêtement, je trouve qu'eux autres, c'est un miroir de nous. Qu'est-ce que nous autres, on génère, eux autres vont le refléter puis ils vont nous le redonner.
Bien, je pense que aussi il faut qu'on revienne à la base, qui est l'intention pédagogique aussi. Ah. Parce que ça aussi, c'est, les élèves savent si on leur propose une activité juste pour remplir la période, juste pour les tenir occupés. Alors, moi, je dis toujours aux enseignants, j'ai comme un triangle pour la planification où, au sommet, c'est mon intention. Et de savoir pourquoi est-ce que c'est important que l'élève l'apprenne aussi. Et il y a l'élément accrocheur, où sont les intérêts des élèves, comment est-ce que je vais piquer leur intérêt. Et dans l'autre coin, c'est un appui visuel. Parce que si on se place devant une classe de deuxième année, des élèves qui ont 7 ans, et je commence à parler sans avoir un appui visuel, je les perds tout de suite.
Mm-hmm. Mais c'est ce qu'on parlait la semaine dernière et la semaine avant, on était tous en animation de Carrefour mathématiques. Mais l'idée à l'intérieur du Carrefour, ce qu'on discutait avec les enseignants, c'est que quand on veut s'assurer que la tâche est authentique, on utilise la stratégie ICE. ICE. Alors moi, dans ma tête, qu'est-ce que tu penses que je fais? ICE. Bon, alors, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait une image, il faut qu'il y ait du concret, il faut que les émotions
soient. Mm-hmm.
Alors,
exactement.
C'est la même chose ici au niveau de, au niveau de la tâche authentique.
Bien, c'est ça aussi parce que à l'élémentaire, les élèves sont toujours dans le concret ou le semi-concret. Mm. Alors, c'est pour ça que ça prend un appui visuel, peu importe ce que tu fais. Et je pense à l'idée de la cage du hamster. Si j'affiche juste sur le TBI une image d'un hamster super adorable, déjà, j'ai l'intérêt de mes petits amis qui ont 6 et 7 ans.
Oui, des gros yeux, là.
Absolument. Puis, comme les lémurs, là.
Oui.
Mais l'idée aussi, c'est que pour ces élèves-là, qui sont souvent nouvellement arrivés au pays ou qui n'ont pas la même expérience à l'extérieur de la salle de classe que d'autres enfants, le visuel permet de construire... quand tu n'as pas de connaissances antérieures, les connaissances antérieures, tu les construis au fur et à mesure. Mm-hmm. Ça te permet d'avoir un vécu sur lequel t'associer puis accrocher tes apprentissages.
Mm-hmm. Oui, absolument. Oui.
Wow.
Quelque chose d'autre à ajouter, mesdames?
Je pense qu'on a parlé de tout. On a fait
êtes-vous motivée?
Moi, je suis toujours
motivée.
Oui, plus motivée que quand qu'avant. On avait commencé.
Oui.
Mais je suis déjà souvent très motivée, fait que là, ça vient juste.
Est-ce que vous vous rappelez, avant, quand on faisait des conversations comme ça, mais on ne s'enregistrait pas et on n'était pas motivés.
Mm-hmm.
Mais maintenant, c'est une tâche authentique. On a un podcast.
Ouais.
Alors, au lieu de parler pour rien,
on
a des auditeurs.
On se motive.
On a la mère de Mylène qui nous écoute chaque fois. Et avec 12 épisodes, on a maintenant... une saison, selon la logique Netflix.
On a une boîte d'œufs.
Oui, on a une boîte d'œufs.
Il y en a 12.
C'est-tu comme... Ou c'est quoi qui est... Comme quand t'achètes 12, mais t'en as 13. Ah, oh, ça, c'est
un baker's dozen.
Oui.
La semaine prochaine.
Oui.
Avez-vous des idées de sujets pour notre podcast?
Ou des sujets sur lesquels vous voudriez qu'on discute, qu'on échange, qu'on partage?
Si c'est le cas, il y a plusieurs façons de nous rejoindre. On a une page Facebook pour toute la classe.
On a un compte Twitter qui est tout pour.
On a aussi une adresse courriel, le pour toute la classe à commercial@gmail.com.
Et vous faites quoi mardi soir à 19h? Mylène?
Moi, je suis sur la plateforme voiced.ca.
/. Toute la classe,
exactement, pour aller échanger avec nos auditeurs de toute la classe en version simultanée, en live.
Alors, encore une autre fois, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine!
Merci d'avoir écouté l'épisode. Vos animatrices sont Jennifer Davies, Mylène Brassard et Vicky Fauteux. Un remerciement particulier à nos directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamont. Le montage est fait par Vicky Fauteux. La musique est créée par Ralph Grant et enregistrée par les Productions Guérin. Les dessins du logo sont créés par Francis Fauteux et notre logo est créé par Mylène Brassard. À la prochaine!